I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nocine, votre rendez-vous avec le cinéma qu'il faut bien le dire a construit une bonne partie de sa cinéphilie et de ses goûts sur la fascination pour les méchants, les sales mecs, les criminels, les mafieux, un mélange de dégoût, d'attirance, maintes et maintes fois documenté, qui par ailleurs est également le moteur de bon nombre de réalisateurs et de réalisatrices qui n'ont de cesse de creuser cette question de l'attraction du mal, parfois en l'ancrant dans le fantasme, parfois dans la réalité, comme c'est le cas avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, Piranha, dont on va causer avec les deux délinquants de la critique ici présents, Julien Dupuis, salut Julien.
Salut.
Et Perrine Quetson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nocine. Épisode 194 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Piranha, c'est l'adaptation du livre du même nom du célèbre Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, qui co-signe par ailleurs le scénario. Et ça nous raconte donc le quotidien d'une bande de mômes de Naples, bien décidés à embrasser la carrière criminelle de leurs idoles, les parrains de la Camorra, la mafia locale, quitte à tout risquer pour vivre la grande vie.
Rispetto e pallonura, una giovezza con me.
Derrière la caméra, c'est Claudio Giovannessi. Au casting, on trouve Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Alfredo Torito ou encore Carmine Pizzo. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je dis leur nom quand même.
Personne ne le sait.
Pur acquis de conscience. Chers amis, votre avis sur Piranha. Je n'ai plus le droit de donner la parole à Julien Dupuis en premier. Contractuellement, c'est désormais inscrit sur ses contrats grâce à la pression de la foule, je dois dire. Voilà. Périne.
Oui, donc tu l'as dit, c'était une nouvelle adaptation d'un livre de Saviano. Saviano, pour remettre dans le contexte, enfin, j'imagine que beaucoup de gens le savent, mais Saviano, c'est un journaliste écrivain qui maintenant a un petit peu la mafia au cul, clairement, oui. En Italie.
Et le gouvernement,
d'ailleurs, il s'est mis un
sympa.
Peu tout le monde dos. Voilà.
Le gouvernement étant la mafia aussi.
Ouais, enfin, on est pas censé dans une analyse géopolitique de l'Italie là maintenant, mais disons qu'il a le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui est de la Ligue d'extrême droite. Au cul.
Voilà, donc il a un petit peu tout le monde au cul et c'est pour ça qu'il vit sous protection tout le temps.
Qu'on menace de lui retirer. Voilà,
il est un petit peu dans la merde. Et donc, mais c'est toujours très intéressant. Voilà, ces livres, Gomorra, c'était vraiment pour le coup une enquête, sur la Camorra. Vraiment, c'était vraiment très très précis.
Sur la mafia napolitaine.
Voilà. Voilà, c'était vraiment très très précis. Là, Piranha, c'est une fiction à l'origine. C'est vraiment une fiction de sa part, mais une fiction qui est quand même clairement inspirée de faits réels. Pour le coup, on est déjà dans Gomorra, on avait ces deux petits personnages qui étaient fascinés, qui avaient envie d'une vie un petit peu à la Scarface, et bon, finalement ça va finir par se retourner un petit peu contre eux, parce qu'entre ce qu'on imagine de la mafia et ce qui est la réalité de la mafia, il y a toujours une petite marge. Et on continue en fait avec ces personnages-là, ces six ados, ils ont quoi, 15 ans dans l'histoire, et en effet on ne connaît pas ces acteurs, et c'est une très bonne chose qu'on ne les connaisse pas. On a ce fameux Francesco Di Napoli, c'est ça, qui est un peu le personnage central. Nicolas, je ne sais plus le nom des personnages à force, mais voilà, Nicolas, c'est cette espèce de petite figure, une espèce de gueule d'ange magnifique, mais avec un regard très très dur, qui au début est une victime en fait, en quelque sorte. Enfin, il est en position de soumission, c'est-à-dire que lui, il est celui qui se fait sa mère se fait racketter par la mafia. Lui, en vrai, est en rébellion face à cette mafia d'une certaine façon, tout en étant en vrai en fascination vis-à-vis d'elle. Mais c'est une mafia qui est dévitalisée, c'est une mafia qui n'existe plus. Et c'est ça, en fait, que raconte Saviano, et donc par le film Giovannesi, en fait. C'est qu'il raconte, c'est plus les grandes heures de la mafia, c'est plus les grands parrains qu'on pouvait s'imaginer. D'ailleurs, le film commence, tous les grands donnes, les grands parrains, ils sont soit morts, soit emprisonnés, soit c'est des repentis. Enfin voilà, la mafia a finalement souffert de tout un programme qui a eu lieu en Italie, qui a essayé d'évacuer dans les années 80, début des années 90, qui a essayé d'évacuer la mafia. Ça marche pas vraiment, mais bon. Mais résultat, reste un système qui persiste malgré tout, qui est un système qui est un peu habituel, un gouvernement dans le gouvernement, un pays dans le pays d'une certaine façon, qui se répartit par ville. Mmh. Et ce système continue à exister et continue finalement un petit peu à fasciner, mais il est plus facile à renverser. Et en même temps, il est soumis à d'autres choses, à des choses beaucoup plus générales, qui sont une situation politique et une situation économique du pays qui est vraiment compliquée, qui est vraiment en descente. Et c'est un peu ce portrait-là que nous fait aussi finalement Saviano. Il nous explique que à cause de ce contexte-là, la mafia n'est plus ce qu'elle était, elle ne peut plus être. Donc ces gamins-là, bah, à la fois ils sont soumis à ça, mais ils savent aussi qu'ils peuvent potentiellement prendre leur part du gâteau. Et c'est ce qui va leur arriver d'une certaine façon. Ils vont au bout d'un moment, parce que c'est des gamins, et c'est ce que fait avant tout Saviano, un portrait de gamins qui vivent dans un monde où ils jouent à, je sais pas moi, ils jouent à Call of Duty, ils regardent ils regardent Narcos, et enfin, d'une certaine façon, enfin, ils sont assez fascinés par l'accès à l'argent, l'accès à la richesse assez rapidement, et ils le veulent, et ils savent que le moyen, ça va être en passant par la mafia. Et aussi, pour gagner du respect, pour gagner la présence auprès des filles, par exemple aussi, gagner de l'argent rapidement. Tout se décide à cause d'une histoire de table dans boîte de nuit, hein, au départ, quand même. Je ne peux pas accéder à cette boîte de nuit. Donc, enfin, ça, et puis la mère qui est raquettée, mais il y a quand même cette idée d'un seul coup, je n'ai pas accès à ce que je voudrais avoir accès, je veux l'avoir accès rapidement, donc je vais rejoindre la Camorra. Et finalement, le basculement va se faire assez rapidement, au point de voir cette jeunesse qui a envie de beaucoup de choses, mais n'est pas non plus totalement en accord avec les codes qui sont préexistants, qui va vouloir changer les choses, mais qui va vite retomber dans un système qu'elle finalement a dénoncé au départ.
Julien ?
Moi, ce que j'aime beaucoup dans Piranha, c'est que c'est le récit d'une fatalité, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui n'a pas dans ses récits, en fait, de descente au cœur du crime, t'as beaucoup de pièges, en fait, de choses simples. Mais je trouve qu'il les évite très souvent, en fait, ce film-là. C'est-à-dire que t'as pas de pathos déplacé, t'as pas de misérabilisme. Et puis surtout, il y a un truc que moi, je trouve très fort, c'est que t'arrives à ne pas avoir de jugement moral par rapport au personnage. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, c'est ce qui me concerne, c'est que, évidemment, c'est condamnable, ce qu'ils font. Mais il y a une espèce de fatalité qui les conduit là où ils sont. Ils sont un peu déterminés dans ce qu'ils veulent faire, évidemment, et tout, mais c'est surtout ce que montre très bien le film, et de façon plus assez délicate, il reste quand même le produit d'un mode de fonctionnement de la société. Ce qui, finalement, c'est pas si fréquent que ça, y compris dans les ascensions de crimes de Scarface, par exemple, ouais. Où là, vraiment, t'as un personnage qui est déterminé, qui va renverser les trucs, qui va y aller tout de l'avant. Alors, t'as un peu ça, hein, quand même, dans Piranha, mais pas tant que ça, en fait. C'est un fait établi, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a ce coup de la boîte de nuit, c'est vrai qu'il y a le coup de la maman, mais qui est racketté, mais finalement c'est une fatalité, ça te fout un peu en colère, un petit peu en rage, mais pas plus que si quand tu dois payer tes impôts, des choses comme ça, quoi. C'est institutionnalisé, en fait, et c'est ce qui me plaît, moi, dans le film, c'est quel effet ça a sur la jeunesse quand la petite criminalité, puisqu'on a accès quand même à la petite criminalité, puisque c'est à l'échelle d'un quartier, en fait, à Napolitain, quand la petite criminalité est comme ça, fait partie du quotidien, en fait, de ses habitants. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, tu suis le parcours des personnages et tu es complètement... moi, je me suis senti complètement avec eux. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai senti de distance, si ce n'est quand arrive finalement assez tardivement la violence, et notamment les armes à feu. Ouais. Et ça, c'est assez étonnant parce que, surtout dans les films sur la mafia et tout, les armes à feu, ça fait partie du décor. Hein, ouais, c'est un outil de cinéma que t'es habitué à voir et finalement qui est... sauf quand c'est vraiment le sujet même du film. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Peut-être que Perrine, c'est pas son cas, mais finalement... Quand ça arrive, c'est plus ou moins un choc, mais c'est pas non plus... Là, ouais. Je trouve que dans Piranha, la première fois que tu as une arme à feu, et surtout la première fois qu'eux, ils l'utilisent, waouh, ça te fait un choc, parce que là, tout d'un coup, c'est comme si toutes ces petites choses du quotidien, en fait, avaient un impact sur la réalité. C'est-à-dire que tout ce petit crime-là avec lequel tu composais auparavant, avec lequel tu vivais, avec lequel tu essaies de te construire en tant qu'adulte, tout à coup, il y a un impact, en fait, réel qui est là. Et ça, c'est quand même super fort. Accompagné à ça, il y a il faut le souligner, une vraie... un vrai travail aussi sur Naples qui est vachement intéressant et sur une vraie réussite qui est dans l'authenticité, en fait, des comédiens. C'est vrai que voir toutes ces nouvelles gueules, voir comment ils jouent, ils ont tourné par exemple en chronologie, en ordre chronologique dans le film, ce qui est hyper rare au cinéma, hein. Mais c'est très très payant, en fait. C'est-à-dire que tu sens devant tes yeux, tu as tout ce cast, en fait, qui se crée, qui évolue, qui change,
qui avance avec l'histoire
et puis qui avance aussi en tant que que comédiens, en fait, finalement, parce que je pense qu'ils les ont quand même sortis de ce milieu-là, et ils les ont entraînés dans cette fiction-là, où ils ne seraient pas censés aller, enfin, j'espère pour eux, quoi, ces enfants-là. Et du coup, bah, à mesure, si tu veux, qu'ils progressent dans leur métier de comédien, en fait, sur le plateau de tournage, tu sens qu'ils arrivent aussi à s'emparer avec beaucoup de naturel de cette fiction qui devient de plus en plus présente et de plus en plus lourde. Et puis, c'est vrai, il y a un truc aussi sur lequel je rejoins totalement Perrine, c'est que j'adore aussi la façon qu'il a de... casser en fait la mafia, c'est-à-dire qu'il y a un personnage de parrain notamment qui est présenté, c'est dédramatisé à l'extrême, mais d'ailleurs ce sont des scènes assez rigolotes, assez légères en fait, et où il n'y a pas du tout de fascination en fait pour ça. C'est aussi une réussite du film, quoi. En cela, t'es pas du tout dans le Scarface de Palma, bon, qui cherche de toute façon totalement autre chose, mais je pense que eux, leur but, c'est de dénoncer en fait un mode de fonctionnement, et à ce titre, c'est, je trouve, totalement réussi. Je n'imagine pas qu'un ado puisse voir Piranha et se dise « Ah putain, mais j'ai envie de cette vie-là. » Moi, le corollaire de ça, et c'est là où je place la limite du film, c'est que tout ce résultat-là et cette réussite a un prix, et a un prix au niveau du pur cinéma. C'est-à-dire que moi, j'en vois beaucoup des thrillers basés comme ça sur une réalité, beaucoup de trucs en provenance notamment d'Amérique du Sud, donc centrale. C'est hyper formaté en fait visuellement, surtout, mais je pense que c'est dû aussi aux outils numériques, c'est-à-dire que les mecs, ils utilisent aussi les outils numériques et toutes les facilités que ça donne, et je trouve que stylistiquement c'est un film qui manque un peu de personnalité quand même, c'est-à-dire que je me retrouve encore avec ce même type de lumière un peu naturaliste, c'est-à-dire avec ces nuits un peu orangées cette même recherche de fragilité de point par exemple sur certains gros plans, ce même travail un peu chaotique sur certaines caméras à l'épaule. C'est jamais préjudiciable au film, mais ça l'empêche de se hisser à un autre niveau. Moi je pense, alors c'est deux films très différents, c'est vrai, mais je peux pas m'empêcher de penser à Dogman, où sur certains points il y avait quand même des parallèles, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un acteur qui
Théo Garon, qui avait adapté d'ailleurs Gomorra, le précédent.
Mais il y avait aussi un acteur qui, je crois, n'avait pas d'expérience ou quasiment pas, qui jouait le personnage principal, etc. Et ça n'empêchait pas, en fait, Matteo Garon d'avoir une vraie ampleur, d'avoir une vraie ambition graphique, etc., qui me manque un peu, moi, dans Piranha. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, il y a de l'authenticité, il y a de la vérité là-dedans, et ça, c'est peut-être primordial, hein, aux yeux des gens, etc. Moi, je viens là-dedans aussi pour voir du cinéma, quoi, et pas voir un truc sur la mafia, enfin c'est peut-être une déviance de cinéphile, quoi, je sais pas, mais ça me manque un peu, c'est et j'en ai un peu marre en fait de voir toujours la même typologie en fait de cinéma, tout ça est très normé, quoi, finalement.
Je suis pas totalement d'accord. Justement, j'ai beaucoup pensé à Dogman aussi en regardant le film, évidemment, parce que je trouve qu'il y a une lumière assez similaire. Alors pourtant, on n'est pas du tout dans les mêmes. Enfin, dans les deux cas, on est un peu en bord de mer, mais on n'est pas du tout dans le même style. C'est pas la même zone de bord de mer. Mais moi, je trouve qu'il y a cette même lumière avec des couleurs très désaturées complètement. Même s'il joue sur un truc un petit peu en sourdine, sur le début du film qui est quand même assez désaturé. Ouais. Puis à un moment donné, quand les gamins commencent finalement à prendre un peu plus de pouvoir, d'une certaine façon, à rouler eux-mêmes sur l'or d'une certaine façon, puisqu'ils sont tout le temps en scooter, il y a quand même ce truc du scooter permanence, la balade dans la ville, moi je trouve ça incroyable, c'est comment ils filment ce quartier de Savita à Naples, où on a vraiment une notion de la géographie de ce quartier qui est vraiment
qui est imposé par les lieux en fait, c'est pas un projet de cinéaste en
fait, pas du tout, mais il le rend bien, c'est-à-dire que d'un seul coup, moi je trouve qu'il rend bien ce truc un petit peu...
Il pouvait pas faire autrement en fait.
Oui, mais il aurait pu, je sais pas, mais en tout cas le côté labyrinthique, etc., où les gens se retrouvent, se recroisent et ne peuvent pas échapper, il y a un effet d'enfermement dans le quartier que j'aime bien et qu'il arrive à faire ressentir. Et il y a quand même cette lumière qui devient un tout petit peu plus d'or, en fait. Il y a quelque chose d'un petit peu d'or pour finalement redescendre sur la fin quand ça redevient vraiment... c'est un rise and fall, hein. C'est la montée et la descente. Mais il y a quelque chose comme ça où il joue un tout petit peu. Moi, je trouvais ça assez subtil. Et finalement, je trouve qu'il joue aussi beaucoup sur les décors, encore une fois, sur cette idée de dévitaliser la mafia. Ce que j'aime bien, c'est la manière dont on nous présente la mafia pour la première fois vraiment. Alors, c'est les petits rackets. Donc ça, c'est un petit peu tout nul. Dans un pressing, quoi. C'est un petit peu tout nul. Regardez, c'est pas un impressionnant. C'est pas tout de suite un truc avec des armes à feu. Et aussi, le deuxième chose, c'est on arrive dans les anciennes propriétés magnifiques napolitaines de ces grands pontes de la mafia, qui maintenant ne sont plus que recouvertes de rideaux, pleines de poussière qu'on voit dans la nuit parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il y a quelque chose un petit peu de vraiment de la fin d'un âge d'or, mais qu'on regrette pas vraiment, mais qu'on regrette quand même parce que finalement, il y avait une sorte de tradition de valeur qu'on regrette un peu. Et je trouve que par ces choix, finalement, de la manière dont ils filment ces lieux, de la manière dont ils filment ces gamins aussi, il y a énormément de naturalisme. Hein. Clairement, il y a énormément de naturalisme et ils cherchent jamais à vraiment décoller du réel. Hein. Ils cherchent pas vraiment à décoller de ça. Mais moi, j'aime bien justement ça, c'est que d'un seul coup, moi, il me fait sentir quelque chose d'un lieu, d'un endroit que je ne connais pas, hein, techniquement, d'un milieu que je ne connais pas, que je ne regarde que de loin, qu'à travers le cinéma ou les bouquins. Et je trouve que vraiment, il me le fait ressentir. Moi, j'ai plus, moi, mon bémol, plutôt, il viendrait sur la fin. En fait, où finalement, je trouve que toute la progression des gamins est assez, assez fascinante. Et sur la fin, finalement, il y a une forme de à la fois de précipitation de ce qui va se passer et en même temps un ralentissement dans l'énergie du film qui pour le coup est un petit peu décevant parce que ça empêche un vrai clash à la fin parce qu'il se passe un truc assez dramatique que ce drame soit d'autant plus fort.
Je pense aussi c'est voulu,
un peu dommage.
Non, tu crois pas? Moi je pense il y a un truc où il cherche à... Il veut pas de drame trop, en fait.
Tu veux dire qu'il normalise encore une fois ce truc-là? Moi, je suis d'accord sur les armes à feu. C'est l'apparition des armes à feu qui, d'un seul coup, pour moi, fait plonger le film dans le drame. Pour le coup, il fait plonger le film dans le drame et on sait que ça va pas bien se passer. Mais en même temps, j'aime bien l'idée que ces gamins ne soient pas... qu'il y ait cette observation d'un système, qu'ils ne soient pas complètement fascinés par ce système. Ils le voient juste comme quelque chose de pratique. Et une
fatalité, quoi. S'ils veulent réussir, il faut que ce soit ça.
Mais il y a un déterminisme. Ils sont nés là-dedans et il n'y a pas le choix. C'est soit on est racketté, soit on rackette. Mais en même ils veulent le changer, ce truc-là. Il y a quand même, à un moment donné, on y croit à ces gamins qui disent « Non, le racket avec nous, c'est fini. Oui. » Et finalement, non, ils sont rattrapés par un système qui est déterminé en eux, qui est ancré en eux, que je trouve particulièrement fascinant.
Pour terminer, chers amis, on va faire, comme toujours, un petit tour de recommandations. Alors, on peut rester dans l'univers du cinéma italien, si on le souhaite. C'est même très, très bien. Mais vous le savez, vous êtes parfaitement... Libre, c'est un espace de liberté, Julien, c'est ton espace.
Moi j'en ai deux. Je vais passer très vite. Je voulais juste rappeler que Dogma, parce qu'on en a parlé, je crois qu'on n'avait pas fait de nos ciné, si mes souvenirs sont bons,
On en avait
Dogma,
parlé pendant Cannes, de toute façon.
Mais je voulais juste signaler que il y a un Blu-ray qui est sorti chez le Pacte, et il y a un making-of qui est super, en fait, dessus, où justement tu vois les méthodes de travail en fait, de Garn qui sont pas piquées des hannetons, quoi. Enfin, notamment où il fait picoler ses comédiens et tout, enfin, c'est assez marrant, quoi.
Est-ce qu'on apprend un peu plus sur ce fameux comédien qui est au cœur?
Bah oui, justement,
c'est le
making of est justement axé autour de lui, en fait, ce qui est logique, en fait. Mais alors, je voulais complètement parler d'autre chose, moi, en fait, c'est que il y a plein de petits éditeurs en fait qui ont sorti des éditions Blu-ray formidables depuis avril-mai-juin, là, en ce moment.
Défendre quelques-unes.
Un petit peu, mais pas assez.
Pas assez
non, il y a. J'aurais pu en choisir d'autres, mais je vais en choisir un en particulier. C'est The Ecstasy of Film. Je crois que le gars, il est quasiment tout seul. Christophe Cossin. Je lui demande pardon si j'écorche la prononciation de son nom. Mais il a sorti une édition géniale de Reanimator, mais je voulais parler surtout de son édition de Rage de Cronenberg, qui est un Cronenberg que j'adore parce que c'est encore le Cronenberg des débuts, le Cronenberg un peu cracra, qui est pas du tout reconnu par la critique et tout. Et alors déjà, l'édition, elle est super. C'est un beau digibook. Il y a plein de bonus dedans. Il y a un commentaire audio sous-titré de Cronenberg qui est génial, qui est fascinant. Il y a un documentaire sur le mec des effets spéciaux qui est super aussi, qui est très rigolo. Et en plus, le film qui est présenté dans une belle copie. Bon, là, après, c'est Rage. L'image n'est pas incroyable. C'est pas Laurence Darby, évidemment. Mais Rage, c'est vraiment... Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film voir.
C'est pas du Lubitsch, on aurait eu le C'est pas Laurence Darby.
C'est pas Laurence Darby, ouais. Non, mais en fait, c'est un film assez incroyable parce que c'est fascinant de voir comment un auteur qui avait déjà un univers, des obsessions qui lui étaient propres, a réussi à sublimer ce qui aurait pu être un pur truc d'exploitation. Il y a un exemple... particulier là-dessus, c'est que c'est l'histoire d'une pandémie, et en fait, tu suis plutôt, on va dire, le point de vue du patient zéro.
Ouais.
Et le patient zéro, c'est un truc qui lui a été imposé par son producteur, c'était Ivan Reitman, le futur réalisateur de SS Fantôme d'ailleurs. Et c'est Marion Chambers, qui était une actrice de cinéma érotique. Et en fait, ça donne c'était un truc que voulait pas forcément Cronenberg au début. Et en fait, il arrive à en tirer vraiment avantage parce qu'il y a un truc dans les scènes de contamination qui est très sexuel, en fait.
Ouais.
D'ailleurs, on a souvent dit que Rage préfigurait ce qui allait se passer avec le sida plus tard, etc. C'était une espèce de pré-métaphore, quoi. Ouais. Je ne sais pas comment on appelait ça. Et du coup, c'est un choix incroyable. Et en plus, bon, surtout quand on connaît le destin tragique de Marion Chambers et tout, du coup, ce personnage est absolument, je trouve, totalement bouleversant. Et de voir dans un cinéma un peu cracra, avec une photo un peu moche comme ça, tu vois, c'est même un peu racoleur, on pourrait dire, ouais. Des fois, un peu complaisant dans les effets gore et tout, de voir tout à coup une pépite d'humanité pareil, en fait, qui émerge, moi, je trouve que ça brille encore plus, quoi. Voilà. C'est bien mieux que tous les crashs et les trucs comme ça.
Oh.
J'ai pas pu m'empêcher, j'étais sûr que Perrine adorait Crash.
Mais moi aussi, moi aussi.
J'aime tout Cronenberg.
Oh Dieu, personnage, Perrine.
J'en ai deux, mais j'en ai parlé très rapidement. On a parlé très rapidement à Cannes, mais j'ai hâte qu'il sorte et pour qu'on en reparle en plus en détail. C'est Le Traître de Marco Bellocchio, qui est un film extraordinaire sur la mafia, justement, mais plutôt sur la mafia sicilienne et sur un traître, justement, qui a permis l'arrestation de 380 pontes de la mafia dans les années 80. Et c'est un film extraordinaire. Hâte qu'on en parle quand ça sortira.
Okay.
Le deuxième film, c'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un film de Jia Zhangke, Les Éternels. Les Éternels, là, on est sur la mafia chinoise, cette fois-ci. Et pour le coup, le lien que je fais entre les deux films, c'est parce qu'à un moment donné, l'un des personnages... Le film se passe en trois temps, trois actes, trois périodes. Et la première rupture se passe à cause, justement, on a ce couple qui gère un peu la pègre d'un petit canton local et qui se fait renverser par des jeunes, en fait, qui arrivent et qui viennent... péter les règles de la mafia, péter les règles de la pègre et prendre ce qu'ils peuvent prendre, en fait.
Oui.
Et c'est là où je fais le lien finalement avec Piranha, c'est-à-dire comment d'un seul coup ces jeunes qui ne veulent plus répondre aux règles de presque ancestrales de la pègre, des règles qui sont mises depuis longtemps, des anciens, de respect, etc., auxquelles ils ne veulent plus adhérer et qui veulent prendre leur part du gâteau rapidement. Et c'est là où je fais le lien avec Piranha. Après, Les Éternels prend plutôt le point de vue de ceux qui ont perdu leur place, en fait.
C'est surtout un portrait de femme incroyable.
C'est un portrait de femme incroyable, mais c'est vrai qu'elle est donc dans ce truc-là, et à la fin, elle va regagner, enfin, en tout cas, c'est une place dans la pègre, mais autrement et différemment. Mais c'est vrai qu'on est plutôt du point de vue de ceux qui ont perdu leur place, en plus de ce portrait de femme. Donc je pense que c'est deux films sur deux mafias différentes, dans deux pays différents, mais qui, à mon avis, sont...
Bon, Les Éternels, c'est un peu chiant, quoi.
Oh non, c'est sublime, Les Éternels. Pas du tout. C'est jamais chiant,
Est-ce qu'on critique tes recos, nous?
Non, mais c'est pas la
jamais belle. Chiant, Jazz Anke.
C'est bien.
Non, mais
plus bene amat, is bene castigat. Voilà.
Oh, ah, très gentil.
C'est ça, ouais, qui aime bien, voilà. Châtie bien, tout à fait.
Voilà. Donc voilà, mais Les Éternels de Jazz Anke.
Mais c'est italien.
il sort bientôt, à mon avis, en DVD. C'est l'occasion de le rattraper parce que c'était un très beau film qui était présenté à Cannes. L'année dernière,
et donc cette année c'était Le Bellocchio dont
le
on Bellocchio, parlera
le traître quand
dont,
il sortira.
Dont on parlera quand il sortira. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Thomas, à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.